Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un livre important. Les femmes marocaines à l'horizon 2050, entre espoir et rupture. C'est un travail signé Salma Labtar, qui est journaliste, militante, chercheuse, et Adnan Ben Chakroun, acteur médiatique bien connu. Et leur but, c'est d'aller voir de près les injustices, oui, mais aussi les espoirs, les fractures que vivent les femmes marocaines. Avec une projection vers 2050 et une approche, disons, féministe marocaine bien ancrée.
Exactement. Et nous, notre objectif ici, c'est d'explorer un peu les arguments forts, les tensions que ce livre met en lumière. C'est une sorte de cartographie, si vous voulez. Une alerte aussi, et une projection sur la condition des femmes au Maroc.
Alors, entrons dans le vif du sujet. Un point qui frappe tout de suite, c'est ce décalage. D'un côté, des avancées légales, on pense à la réforme de la Moudawana en 2004, la constitution de 2011. Et de l'autre, une réalité sociale qui, elle, semble stagner. Comment le livre explique ça?
Les auteurs mettent le doigt sur une inertie sociale, en fait. Malgré les textes, les mentalités, les pratiques, ça a du mal à suivre. On voit encore une interprétation très patriarcale des lois, surtout pour tout ce qui touche à la famille. Et puis, l'application du droit n'est pas la même partout. C'est différent entre ville, campagne, où les traditions pèsent lourd, quoi. C'est ce qu'ils appellent l'égalité en panne. L'État avance sur le papier, mais la société, elle freine.
C'est très clair. Et cette résistance, elle est particulièrement visible autour du corps des femmes, décrit comme un territoire social. L'expression est forte. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement?
Oui, c'est un point central. Le livre analyse comment le corps féminin est un lieu d'enjeu de pouvoir. On parle de contrôle de la sexualité, de l'obsession de la virginité, de la pudeur, tout ça lié à l'honneur de la famille. Mais c'est aussi un espace où les femmes résistent, parfois silencieusement. Et puis il y a ce silence autour de la sexualité, de la contraception, même de la maternité qui est souvent subie. Ça crée une méconnaissance, des souffrances cachées, et le livre dénonce vraiment ça.
Et ça nous mène à un autre paradoxe assez troublant. Les filles réussissent très bien à l'école, parfois même mieux que les garçons, mais après, dans la vie professionnelle, ça ne suit pas forcément. Comment c'est possible?
Ah oui, ça c'est une rupture que le livre explore en détail. Les filles cartonnent à l'école, c'est vrai, mais ensuite, elles se heurtent de plein fouet au fameux plafond de verre, cette barrière invisible, quoi. Les stéréotypes à l'embauche sont tenaces, et puis il y a la double journée. Le travail payé et tout le travail à la maison, la charge mentale, c'est énorme. Du coup, le taux d'activité des femmes reste bloqué très bas, moins de 20%. C'est un chiffre qui interpelle vraiment.
Et dans ce contexte difficile, on entend parfois parler de l'entrepreneuriat féminin comme d'une solution miracle. Le livre en pense quoi?
Alors là, le livre est beaucoup plus nuancé. Il parle même parfois d'illusion d'autonomie. Il montre que beaucoup de femmes se lancent dans l'entrepreneuriat par nécessité, en fait, pour survivre. Parce qu'elles n'ont pas accès à un emploi salarié correct. Et souvent, c'est dans des conditions très précaires, sans beaucoup de moyens, sans protection sociale. C'est plus une stratégie de survie qu'une vraie émancipation économique pour beaucoup.
Le livre parle aussi des violences. Il insiste sur le fait qu'elles sont partout et presque banalisées.
Absolument. Il décrit une violence qui est structurelle. Elle peut être physique, psychologique, économique, même numérique aujourd'hui. Le cyberharcèlement monte en puissance. Et le livre montre bien comment la société a tendance à minimiser tout ça, parfois même à trouver des excuses. Il y a bien la loi 103-13 contre les violences faites aux femmes, mais son application sur le terrain, c'est compliqué. L'accès à la justice pour les victimes reste un vrai parcours du combattant.
En regardant vers 2050, le livre ne s'arrête pas au constat. Il aborde aussi des thèmes plus récents, comme l'intelligence artificielle ou le climat. Quel impact sur les femmes?
Oui, cette dimension prospective est très présente. Les auteurs alertent sur les biais sexistes qui se retrouvent dans les algorithmes d'IA. Ça risque de renforcer les inégalités qu'on connaît déjà. Et pour le climat, ils montrent que les femmes, surtout en milieu rural, sont en première ligne face aux impacts. Mais elles sont souvent invisibles dans les plans d'action, dans les réponses apportées. C'est un peu la double peine, quoi.
Donc, si je comprends bien, au-delà de pointer les problèmes, le livre appelle aussi à changer des choses plus profondes, comme notre vision de la masculinité.
Tout à fait. Il y a un appel assez clair à déconstruire les modèles de masculinité qu'on qualifie de toxiques. Parce qu'ils sont vus comme une partie du problème, évidemment. L'objectif final pour 2050, c'est vraiment d'arriver à une citoyenneté pleine et entière pour toutes les Marocaines. Et ça demande des changements profonds, chez tout le monde.
En résumé, ce livre, Les femmes marocaines à l'horizon 2050, nous laisse avec un fort sentiment d'urgence quand même. L'égalité sur le papier, c'est bien, mais ça ne suffit pas. C'est un travail de longue haleine, culturel, social.
C'est exactement ça. Le livre se termine sur un appel à l'action, à un engagement collectif pour bâtir un Maroc plus juste. Un Maroc où la voix, les droits, la dignité des femmes soient enfin pleinement reconnues, respectées. C'est la base.
Et peut-être une question pour finir, qui nous concerne toutes et tous. Si l'avenir des femmes marocaines en 2050 dépend de ce qu'on fait aujourd'hui, comme le suggère le livre, quelles responsabilités on est prêt à prendre, individuellement, collectivement, pour que cet avenir soit fait d'espoir réalisé et pas seulement de rupture ? C'est une vraie question, je crois.